une habitude. Sur la bande, c'est là que le sport, on en discute. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la quatrième saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les trois étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Salut tout le monde, salut Jérémy, première fois que je dis pas. Salut Seb,
comment salut, ça va? Comment
ça va? Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien, merci.
Premièrement, merci de remplacer Sébastien pour ce soir, parce que des petits trucs personnels, on va dire comme ça.
Bon, ça me fait plaisir d'être là.
Que Sébastien ne peut pas être là, comme notre invité de ce soir va arriver un peu en retard aussi, pour lui aussi des raisons personnelles. Donc, Claude, tu peux te rentrer tout de suite.
Oui, je pense que l'invité est en coulisse de ce que je vois.
Exactement. Fait qu'on finit par Claude finalement. Écoute, sinon, je vais passer tout de suite au remerciement des commanditaires. Donc, merci à Perfo Elite, merci à Bouteille Performance et merci à CAG Sport. Il est prêt, parfait, on va le faire rentrer. Fait que la mise au jeu de cette semaine.
La mise au jeu est une présentation du site surlabande.com. Surlabande.com, c'est quoi? Nos chroniqueurs écrivent des articles presque à chaque jour. Le podcast se trouve directement sur le site. Nous avons aussi une section chroniqueurs avec tous les chroniqueurs que nous avons. Donc, surlabande.com.
Mise au jeu, bon segment à tout le monde.
Salut Sylvain.
Hey, bonsoir les gars.
Bonsoir.
Ça va très bien, merci vous autres.
Yes, merci. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous plaît?
Ben certainement. Je suis ici à titre d'officiel d'hockey sur glace, donc j'arbitre depuis que j'ai 15 ans. Et puis, j'ai gravi les différents échelons à partir du niveau local de ma ville natale Longueuil, le régional, la région Richelieu, les ligues provinciales à partir de 19 ans, puis à 22 ans, la Ligue d'hockey junior majeur du Québec à titre de juge de ligne, dans laquelle j'œuvre toujours à ce jour, ma 32e saison. Donc, cette saison-ci, 2024-2025 déjà, donc 32e saison. Toujours avec autant de passion et de reconnaissance. Et voilà. Puis dans la vie de tous les jours, je suis maintenant un enseignant en technique de sécurité incendie du Collège Montmorency après une carrière de 27 ans comme pompier à la Ville de Montréal.
Parfait. Hey, écoute, 22 ans, commencer dans une ligue, tu étais juste 2 ans plus vieux que certains joueurs. Est-ce que ça a commencé à être dur? Est-ce qu'au début, c'était dur genre avoir un respect ou quelque chose comme ça?
Je t'avouerais qu'en toute humilité, en toute franchise, ça n'a pas été difficile. Ça se passe beaucoup au niveau de la communication, au niveau du respect que tu offres envers tous les participants d'une partie de hockey, que ce soit les joueurs, les entraîneurs. Donc, ça se ressent. Est-ce que c'est arrivé que parfois il y a eu des manques de respect, c'est arrivé. Débordement d'émotion, appelons-le comme ça, mais à titre personnel, c'est pas arrivé. Donc, puis même quand j'ai débuté dans la Ligue junior 3A du Québec. En fait, la Ligue junior 3A s'est appelée la Ligue junior tier 2, la Ligue junior A du Québec, la Ligue junior 3, c'est toute la même ligue. Donc, j'avais le même âge que certains joueurs, donc j'avais 19 ans. Puis, ce n'est pas arrivé non plus à ce moment-là. Puis, je crois que ben, le respect, ça se gagne, ça se partage. C'était vraiment ça le secret, si on veut, qui a fait en sorte que mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas arrivé que je subisse un manque de respect de la part des joueurs.
Parfait. On va y aller pour autour du filet.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Donc, ma première question, tu l'as déjà répondu à 15 ans et à Longueuil, c'est bien ce que tu as dit?
Oui, exactement. À 15 ans, j'avais envie de rester impliqué dans le hockey puis me faire une pièce ou deux. Puis, je suis allé faire mon inscription au hockey mineur de Longueuil pour devenir arbitre. Et puis, ma première partie, un petit samedi matin vers 9h à l'aréna du Cégep Édouard-Montpetit. J'avais même pas mis encore un patin sur la patinoire que j'entendais déjà les insultes. C'était plus commun à l'époque. Je te dis pas que ça a disparu, mais donc c'est un gilet qui est léger et lourd à la fois à porter, le gilet blanc et noir, mais j'ai découvert une passion immédiatement. J'ai été bien encadré, bien supporté par des collègues plus vieux, puis c'était mes débuts à 15 ans.
À 15 ans, j'en ai fait un peu aussi de l'arbitrage, là, puis j'ai pas resté longtemps parce qu'il y a de le stress et tout. Mais à partir de quel moment, mettons, tu étais totalement en confiance avec tout ce que tu faisais? Est-ce que tu as toujours été juge de ligne aussi?
Donc, au niveau mineur puis au niveau régional, j'ai fait les deux. On fait arbitre, juge de ligne, écoute, système à deux initialement, après ça, système à trois. Donc, système à deux, on a les deux, la responsabilité de décerner les punitions, puis appeler les hors-jeux, les dégagements. Système à trois, il y a un arbitre, deux juges de ligne. Je faisais les deux encore à ce moment-là. Puis au niveau provincial, on m'a essayé un petit peu comme arbitre au niveau des ligues Midget 3 et collégiales. Et à ce moment-là, ben moi, j'ai commencé comme pompier à 19 ans également, donc j'avais pas pleinement une pleine disponibilité, si on peut ainsi dire. Donc, j'étais moins disponible. Donc, juge de ligne, ça concordait plus avec le fait d'avoir moins de disponibilité. À partir des ligues provinciales et junior majeur, j'ai été uniquement, si on veut, à temps plein comme juge de ligne. Puis tu me demandais à partir de quel moment que j'étais en plein contrôle. En fait, c'est quelque chose que je prends jamais pour acquis. Mais quand est-ce que je me suis senti confortable dans mon uniforme d'arbitre? Je te dirais qu'à partir de ma deuxième saison où j'avais brisé le tabou de décerner des punitions, appeler des punitions, voir le jeu se dérouler, appeler des punitions puis décerner ses premières punitions. Je te dirais que c'est comme un défi pour plusieurs jeunes officiels. En voulant pas donner de punition, tu te mets à décider que finalement le jeu illégal, l'obstruction, ça va être toléré. Donc, tu donnes un mauvais signal quand tu t'aperçois que tu appelles les punitions que tu vois. Puis, quand tu comprends aussi que tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, mais que si tu es toujours engagé dans la partie, si tu établis une bonne communication, le respect, ben, tu vas avoir un préjugé favorable au final auprès des entraîneurs, hein, la connaissance des règlements, les procédures. Donc, je te dirais que à partir de ma deuxième saison, je me suis senti mieux, mais toujours humble avec l'approche. Il y a une chose, par contre, que je n'ai pas mentionné, mais moi, à 15 ans, j'ai découvert une passion. C'est vraiment une très grande passion que j'ai découvert, l'arbitrage, la passion de l'arbitrage, la vie de groupe, d'échanger ensemble avec les autres groupes d'officiels. Fait que je me disais, ben je vais tout faire pour y réussir. Puis, qu'est-ce que moi, je peux tout faire? Ben, c'est dans ce que je contrôlais. Ma connaissance des règlements, mon coup de patin, mes signaux. Donc, rester à l'affût aussi des nouvelles règles, des nouvelles façons de l'appliquer. Donc, mais la zone de confort, je te dirais, vois-tu, même après 32 ans ici dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, je te dirais que c'est très relatif à l'effet que si tu prends ça pour acquis, que ça va être une partie facile, c'est là que tu te trompes. Mm-hmm. Donc, travaille fort à tous les soirs, donne le maximum, puis la communication, les autres collègues. Donc, je suis très humble par rapport à tout ça. Là. Je ne dirais jamais « Ah, tout va bien aller, anyway, ça fait assez longtemps. » Non, non, c'est pas comme ça que je vois ça. C'est chaque soir, chaque nouvelle partie, chaque nouvelle confrontation, donne qu'est-ce que tu as à donner, puis compose avec les éléments de la partie. Donc, voilà.
Tantôt, tu as dit faut être confortable avec le fait d'appeler une punition, je ne sais pas quoi. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de l'arbitrage, je peux vous dire, quand tu commences, même juste appeler un hors-jeu, ça peut être très stressant, surtout quand que le banc il est direct en arrière de toi. Tu vas te le faire dire des fois.
Tu as raison.
Tu peux y aller, Jay.
Oui. Est-ce que tu as une idole ou un modèle que tu as suivi tout au long de ta carrière? Une personne qui t'a inspiré à continuer dans le domaine, ou c'était par passion que tu as vraiment continué autant longtemps?
C'est vraiment par passion, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Je ne pourrais pas dire que j'ai eu une seule idole, mais j'ai eu des gens importants, des mentors sur mon parcours. Et puis, c'était des gens à différents niveaux, tant au niveau local que régional, puis par la suite, la Ligue junior majeure du Québec. Puis ces gens-là, ben, c'était des exemples pour moi sur la patinoire. Donc, c'était des exemples de rigueur, des exemples de gens qui arrivaient préparés, puis aussi des exemples de gens qui faisaient en sorte que, malgré le fait que je pouvais commettre une erreur un soir, ben, c'est pas tout mon monde qui s'écroulait, là. Tu sais, ça demeurait qu'ils me canalisaient, là. Tu sais, ils disaient, écoute, c'est des choses qui arrivent. Quand il se passe tel événement, voici comment tu peux t'en sortir. Voici comment faire pour composer avec une situation semblable. Bon, quand je regarde une partie de hockey depuis tout jeune, j'ai un attrait, bien, surtout depuis que je me suis mis à arbitrer, un attrait pour les arbitres, pour les officiels. Puis je suis capable en même temps de voir le déroulement du match, puis le positionnement, l'approche, la communication des différents officiels. Donc, si je me mettais à en nommer quelques-uns, parce que j'ai plusieurs noms, prénoms qui me sont venus en tête là, depuis que je vous parle de ça, j'en oublierais certainement. Tant au niveau amateur que professionnel, j'ai eu le privilège de côtoyer l'ensemble des Québécois qui ont été engagés dans la Ligue nationale depuis les années 1990, autant arbitre que juge de ligne. Donc, c'est des gens inspirants, c'est des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné le goût de donner le meilleur de moi-même. Puis, il y a des gens qui sont restés au niveau amateur, tout comme moi, qui m'ont donné le sens de la communication, du travail bien fait, du travail d'équipe, puis d'avoir envie de donner son maximum pour soi. Mais quand on donne pour soi, c'est surtout pour les collègues, pour le bon déroulement du match. Donc, ça fait vraiment une différence d'avoir eu ces nombreuses personnes-là sur mon parcours.
Parfait. Peux-tu nous parler du feeling du premier match à la GMQ? D'après mes recherches tantôt, je ne sais pas, j'ai compris qu'il était à Val-d'Or ou juste qu'il impliquait les Foreurs.
Donc, mon premier match de mémoire est à Victoriaville, mais c'est possible que ça impliquait les Foreurs de Val-d'Or. Moi, je suis arrivé en 1993, donc c'était la première année des Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mon feeling, une grande nervosité, fébrilité. C'était d'accéder à un niveau supérieur, donc d'être en mesure de faire les bonnes procédures pour procéder aux mises au jeu, d'établir une forme de respect, parce que là, c'est la première fois qu'ils te voient, d'établir un bon contact avec des nouveaux collègues. Pour la plupart de mes collègues à cette époque-là, j'avais déjà travaillé avec eux dans les ligues junior 3, midget 3, universitaire. Écoute, je te dirais que de dire, en fait, ce qui m'a le plus habité, c'était que j'avais accédé à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À l'époque, il y avait 15 arbitres, 25 juges de ligne. On avait le camp d'entraînement au même endroit. Donc, autant les officiels du groupe provincial que les officiels de la Ligue junior majeur du Québec. Puis, je l'avais appris au camp d'entraînement. Ça avait été très émotif pour moi. J'avais cet été-là, ça avait été un été particulièrement difficile. Mon père était décédé. Il était malade, ça faisait 2 années. On l'avait soigné, la famille à la maison. Puis les derniers jours de sa vie, ils avaient passé à l'hôpital. Puis au mois de juillet, il est décédé. Puis là, 2 semaines plus tard, je me retrouve au camp d'entraînement avec beaucoup de motivation puis d'entrain, parce que moi, j'étais heureux d'arbitrer au hockey. Moi, ça me faisait vibrer. Je venais d'être engagé également comme... c'était ma 3e année comme pompier. J'étais heureux dans mon emploi. Bon, un deuil, là, perdre son père. Donc, et puis là, je fais la ligne pour ramasser mon cartable puis mes documents au camp d'entraînement dans la ligue. En fait, il y avait le groupe A, groupe B. Le groupe A, c'est les juges de ligne puis les arbitres qui évoluaient dans la Ligue junior majeure du Québec. Certains d'entre eux continuaient d'évoluer au niveau du hockey universitaire junior 3A. Puis moi, je faisais la ligne du groupe B. Donc, groupe B, c'est ceux qui faisaient uniquement les ligues midget 3A, universitaire, collégiale. Puis là, je me souviens très bien à l'avant, Richard Trottier, qui se trouvait à l'époque soit arbitre en chef de Hockey Québec ou coordonnateur, puis qui était également arbitre dans la Ligue nationale. Il avait fait signe, change de rangée. Moi, je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un en arrière de moi. Je m'étais retourné, puis là, il m'avait fait comme, non, toi, là, moi. Et là, j'étais devenu émotif. Donc, j'apprenais là que je progressais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis, ça a été là, j'en revenais pas parce que maintenant, on retrouve une multitude d'informations sur le web. Mais à l'époque, fallait acheter le guide des médias, un document écrit pour connaître l'évolution. Puis c'était le Journal de Montréal qui avait le plus d'informations sur les statistiques puis la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, ça a été là un gros coup d'émotion, une grande fierté. Et puis, j'ai progressé dans la Ligue junior majeur du Québec en même temps que le juge de ligne de la Ligue nationale, Johnny Murray, et un arbitre de Québec, Bruno Bernier. Donc, j'étais très fier de ça, avec l'expansion qui commençait à ce moment-là dans la Ligue junior majeure du Québec.
Parfait. Là, il y a... j'ai oublié, il y a de quoi te dire que ça m'a titillé. Si ça me revient, je vais le dire, mais bref. D'après les recherches que j'ai faites, il y avait eu une quote que tu as dit. Là. Mais pourquoi arbitrer le Titan de Laval un lundi soir faisait-toi un bon officiel? Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir dit ça à quelque part.
Oui, j'ai dit ça. À l'époque, le superviseur de la Ligue, M. Doug Hayward, était également le superviseur des Ligues provinciales, le superviseur en chef. Puis, quand tu avais une assignation un lundi soir au Titan de Laval, tu pouvais te dire que tu venais de monter une nouvelle marche dans ton parcours. Puis là, tu pouvais être certain que c'était comme un test. C'était un test parce que c'était souvent des parties intenses avec une foule très engagée, très partisane, limite hostile. Ils voulaient voir ce que tu pouvais livrer. Donc, autant au niveau de prendre des bonnes décisions, mais de supporter la pression et tout ce qui venait avec. Donc, c'était dans la Ligue. À l'époque, là, il y avait Chicoutimi et nouvellement Val-d'Or à l'extérieur de la région métropolitaine. La plupart des autres équipes, là, ça se déroulait vraiment autour de Montréal. Bon, Shawinigan, Québec, Drummondville, Victo. Mais Laval, quand tu avais une assignation à Laval, tu peux être certain que c'était rempli de dépisteurs. C'était certain que le superviseur en chef était pour être là. Donc, c'était bien mieux de livrer une bonne performance. Ça voulait dire, écoute, on te fait assez confiance pour te donner une partie un lundi soir à Laval.
OK. Fait que ça explique. Bonjour Sylvain, ici Joe Lemay à Rouyn-Noranda.
Oui, salut Joe. Joe est officiel mineur à Rouyn depuis de nombreuses années. Donc, il est au banc
des punitions.
Hey, chronomètreur.
Exactement.
Marqueur, oui.
Hey, ce qui m'avait titillé tantôt, c'est ça fait 2 fois qu'on entend ça, camp d'entraînement pour un arbitre. Avant ça, je n'avais jamais entendu. Fait que c'est quoi? Comment ça se passe? Puis est-ce que genre, tu peux te faire refuser de monter en grade et tout ça? Ou?
Donc, écoute, dans les ligues provinciales et juniors majeures, depuis mon accession, là, il y a un camp d'entraînement. Donc, c'est le 2e week-end du mois d'août. Et au niveau junior majeur, à mes débuts, on en avait même trois. On en avait un au mois d'août, un vers novembre, puis un en février. Donc, c'était des jalons. Tu arrivais là, à l'époque, on avait test de course, le test bip-bip, là, le course navette. Ensuite de ça, on avait les tests du temps, le push-up, set-up, chin-up, la flexibilité. Puis on avait également, voulait s'assurer qu'on avait lu notre livre de règlement durant l'été, puis qu'on le lisait régulièrement. Donc, un examen sur les règles de jeu. Donc, il fallait que tu réussisses. Si tu ne réussissais pas, tu avais une reprise. Puis c'était une belle opportunité de démontrer au superviseur que tu arrivais prêt, que tu arrivais en puis que tu étais prêt à débuter la saison du bon pied. Est-ce que ça fait de toi un meilleur officiel? Non. Mais ça pouvait faire en sorte que ça te donnait un préjugé favorable. Les dirigeants, les superviseurs, ils voyaient que tu arrivais en forme, que tu prenais ça au sérieux. Puis on avait également des tests de patin. Donc, on avait des tests de patinage avant, de patinage arrière. On avait un test pour vérifier si notre aptitude de VO2 max, le fameux test de 3 tours. Puis quand tu es jeune, quand tu es le plus jeune, tu passes en dernier. Puis là, ben, quand il y avait 40 personnes qui avaient passé avant toi, ben, je te dirais que la glace dans les virages est pas mal usée. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il fallait que tu performes. Donc, les tests ont toujours lieu maintenant. Les stages ont toujours lieu. C'est une façon aussi de parler de réglementation, de procédure, faire des séances vidéo. Les équipes, les dirigeants des équipes préparent leurs équipes en fonction des stratégies qu'ils veulent mettre en place pour la saison. Ben, nous autres, l'équipe d'officiels, on se doit d'être prêt également avec l'application des règlements puis les procédures en place pour avoir le plus d'uniformité possible. C'est impossible qu'on soit tous pareils, mais on vise à ce qu'on soit le plus similaire possible pour pas qu'il y ait des différences majeures au niveau de l'application des règles de jeu. Puis ben aujourd'hui, on a le luxe des nombreux angles vidéo. On a notre boss Richard Trottier maintenant qui fait des jeux de la semaine, qui nous envoie des clips sur des situations qui se sont produites. Puis on peut en tirer des bonnes leçons de formation sur des bons coups, puis des choses à ne pas faire sur des erreurs qui se sont produites durant les dernières semaines. Donc, au camp d'entraînement, c'est un peu un rassemblement de toutes ces nombreuses situations-là par rapport aux règles de jeu pour procédures à suivre.
Alexis Beauchamp, dans les commentaires, c'est sûr qu'on y parle de son 1000e match, mais un petit peu plus tard dans l'entrevue, fait que ça sera pas bien long.
Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en 2005 au Mexique?
Oh! Écoute, c'est facile à dire pour moi aujourd'hui, mais je dis à tous mes collègues officiels, ils pourraient valider auprès de vous. Là. Moi, je ne suis pas resté dans l'arbitrage pour les finales puis les championnats. Puis là, quand tu regardes mon CV, tu dis « Ouais, c'est facile, Sylvain, à dire ça. » Ouais, mais le Mexique, j'étais déjà rendu à 34 ans. Quand moi, les portes se sont ouvertes du hockey international, j'avais 34 ans. Alors, à ma très grande surprise, mais j'ai eu une assignation, on m'appelle, on dit « Écoute, Sylvain, es-tu disponible pour aller au Mexique? » Championnat, division 3, senior, Mexico City. J'ai dit, c'est sûr, je suis disponible, oui. Je vais m'organiser avec mon travail de pompier, je prendrai des vacances, je ferai des échanges avec des collègues pour me faire remplacer. Donc, je me retrouve au Mexique. Et puis, les 6 nations qui sont là, quand tu penses à ça, là, les pays que je vais vous nommer, là, il y a des dirigeants qui ont décidé d'investir des sous pour mettre en place une équipe nationale. Puis ces équipes-là font partie du bas du classement parce qu'il n'y a pas de championnat plus bas que le senior division 3. Donc, à ce moment-là, il y a le Mexique, il y a le Luxembourg, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Arménie et l'Irlande. Donc, et là, on se retrouve là, majorité, 90% des officiels des États-Unis et du Canada. Et on a également un juge de ligne mexicain, Oscar Nunez, que j'ai adoré, avec qui j'ai eu le privilège d'arbitrer. Et là, on est à l'aréna tout près de Mexico City, un casino adjacent. On est en fait, en temps normal, à 20 minutes de l'aréna de notre hôtel, mais il y a tellement de trafic que ça nous prend jamais en bas d'1h30. Et puis là, on fait des sessions de patins, de préparation. Puis les premières journées sont difficiles. L'altitude, on est en haute altitude, donc c'est plus difficile au niveau cardiovasculaire. Et l'arbitre en chef du championnat, qui a été désigné par la Fédération internationale, c'est Matt Leaf. Matt Leaf, à cette époque-là, c'est l'arbitre en chef des États-Unis. Et tous les tournois de la Fédération internationale de hockey sur glace sont sous la responsabilité d'un superviseur ou de plusieurs superviseurs. Mais là, à ce tournoi-là, Division 3, il y a un seul superviseur et il fait les assignations. Puis moi, après ma première partie, il me demande si je suis en fin de carrière. Je dis, écoute, pas du tout. Moi, je vibre encore autant. Est-ce que tu es en train de me dire que je suis en fin de carrière? Il dit non. Il dit j'ai trois possibilités. Quand je fais un rapport après le tournoi, en fonction de vos performances, soit que je vous recommande vers le haut, soit que je vous recommande même niveau. Mais il dit ça veut dire que ta carrière internationale est finie parce que même niveau, il dit ça, c'est le niveau le plus bas. Fait qu'il dit, t'iras pas nulle part ailleurs. Ou soit je te recommande vers le bas, mais il dit ça voudrait dire que ça va vraiment pas bien, que t'es pas capable de livrer la marchandise. Ben, il dit, juste te dire, j'aime beaucoup comment tu fonctionnes sur la glace, mais j'aime beaucoup hors glace, comment tu établis les relations avec les collègues. Il dit, je vais te faire une recommandation vers le haut. Donc, puis ça, c'était un beau compliment que j'accueillais parce que c'est important, oui, les performer sur la patinoire, mais c'est encore plus important d'avoir des bonnes relations. Puis quand tu es sur la patinoire, c'est d'être compétitif pour le bien de l'équipe des officiels, pour qu'on rende les bonnes décisions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire avec empressement, t'organiser pour être à la ligne de l'autre juge de ligne si jamais il peut pas rendre la décision pour pouvoir le supporter. Quand il se produit un événement que l'arbitre a peut-être pas vu, bien, aller et donner ta version des faits, ce que tu as constaté. Puis, à ce tournoi-là, j'ai fait une partie entre le Mexique et l'Arménie qui s'est terminée 48-0.
Incroyable.
Puis là, tu te dis, aïe, aïe, ça a dû brasser, hein? Parce que, tu sais, on sait ici, là, quand il y a le pointage devient avec une grosse différence, si une des deux équipes ici là, en Amérique du Nord, au Québec, là, il continue de vouloir compter des buts, ben il se produit des coups vicieux un petit peu en voulant dire hey, arrête de faire ça puis tout ça. Mais là-bas, aucunement. Zéro. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de gestes disgracieux. Le Mexique continuait de vouloir remplir le filet de but. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir les meilleures statistiques, il voulait battre des records, il voulait bon. Puis les joueurs de l'Arménie, même s'il y a eu 120 lancers qui se sont rendus au filet, je vous le dis, il y en a eu beaucoup plus que ça parce que plusieurs lancers qui ont été bloqués par les joueurs de l'Arménie qui, malgré que c'était 40-48-0, se lançaient pareil, comme on dit, ils se lançaient de 20 shots. Ils glissaient pour bloquer des shots. Donc, ça a été particulier. Ça a été, en tout, sans dénigrer qui que ce soit, mais le groupe d'officiels, on était parmi les meilleurs patineurs sur la glace. C'est bon, Division 3, les gens qui représentaient les différents pays, c'était pas leur métier, les joueurs de hockey. Là. C'était pas des joueurs de hockey professionnels. Il y avait des emplois dans la vie de tous les jours, mais vu que leur nation rassemblait une équipe, ils avaient fait une forme de camp d'entraînement puis ils avaient le privilège de représenter leur pays. Donc, c'était ça qui m'a lancé au niveau international, parce que Matt Leaf a fait un rapport positif. Et puis là, ben après ça, ça a décollé pour moi.
J'avais ri ça tantôt quand je l'ai vu, que genre les officiels étaient les meilleurs patineurs. Mais en même temps, tu regardes le nom des pays, tu te dis, OK, probablement que même moi, je suis un des meilleurs. sinon, écoute, une autre expérience dans un autre pays en 2007 en Russie. Comment ça s'est passé là-bas?
Donc, très bien passé. 3 semaines à Moscou. Encore là, c'est une expérience humaine. Donc, on était tous logés au même endroit, dans un hôtel, là, à environ 15 minutes de marche du Kremlin. Moi, c'était des images mythiques pour moi. Bon, à l'époque, il ne se produisait pas les événements qui se produisent présentement avec la Russie, mais je m'étais fait des amis dans les championnats précédents, championnat junior à Vancouver en 2006, puis là, j'en retrouvais plusieurs parmi eux. Donc, des Suisses, des Allemands, des Américains. Donc, beaucoup, beaucoup d'amitié. Et puis, il y a les il y a les parties sur lesquelles on est assigné comme officiel sur la glace ou encore comme étant stand-by. Donc, à chaque partie, en plus des officiels assignés, il y a toujours un juge de ligne et un arbitre qui est stand-by. Et dans le jour, après les sessions de patin matinales, ben, dépendamment si tu arbitres ou non le soir, ben, on a beaucoup de temps libre. Donc, il y avait beaucoup de. On faisait beaucoup de déplacements. On allait prendre des marches, on allait prendre des cafés, on allait découvrir différents endroits. Puis les parties se déroulaient à Moscou et à Mitichi. C'était un endroit à environ 1h30 de route de Moscou, là, de mémoire, 1h30. Et ben, j'ai bon des relations humaines, mais j'étais aussi un petit peu. Surpris de voir autant de police, d'armée partout dans les rues, partout dans les métros. Il y avait beaucoup d'interpellations, les gens, mais je me suis jamais senti pas en sécurité. Il y avait un détecteur de métal à l'entrée de notre hôtel. Toutes les fois, il fallait passer le détecteur de métal. Puis il y avait des problématiques avec, à l'époque, la Tchétchénie. Donc, il y avait eu des gens qui s'étaient fait exploser dans les métros là, dans les années précédentes. Il fallait toujours se déplacer avec nos documents officiels, notre passeport, mais également notre permis de séjour. Puis, la compétition a été extrêmement relevée. J'ai arbitré 6 parties impliquant la Russie. Ça, c'est à heure de grande écoute. Donc, c'était toujours en soirée. L'aréna qui avait été nouvellement construite pour le championnat à Moscou était remplie à pleine capacité. Il y avait le président qui se présentait là avec une trolley de sécurité, là, de police, d'armée. C'était très, très, très couru, très suivi. Donc, un grand privilège. Puis à l'époque, les plus grandes vedettes russes qui jouaient dans la Ligue nationale représentaient la Russie. On parle de Ovechkin, on parle de Malkin, on parle de Markov qui jouait également comme défenseur pour le Canadien de Montréal. Donc, un grand, grand, grand privilège. Puis, comme officiel canadien, ben, je dis comme officiel canadien, mais à l'international, tu n'arbitres jamais ton pays d'origine. Donc, okay. Moi, en tant que Canadien, je pouvais regarder les parties du Canada parce que non seulement j'étais pas assigné sur la patinoire, mais j'étais pas non plus un officiel stand-by. Donc, j'ai eu le privilège de regarder les parties du Canada là, des Astrales.
Est-ce qu'ils ont peur que les officiels soient biaisés ou quelque chose comme ça, qu'ils soient partisans d'une équipe?
Donc, c'est vraiment pour prévenir ça, pour prévenir une forme de partialité. C'est pas commun en Amérique du Nord. Là, moi, comme Canadien, puis pour plein de nations, c'est pas quelque chose qui est comme commune, mais ils ont eu des expériences passées. Ils nous expliquaient, ils nous justifiaient ça par le fait que dans le passé, c'était arrivé qu'il y avait peut-être dénoté de la partialité de la part des officiels, puis ils voulaient vraiment prévenir toute problématique. Fait qu'ils avaient mis cette règle-là. J'ai même un ami qui vit en Suisse, mais qui était originaire du Canada, puis qui lui arbitrait ni la Suisse, ni le Canada. Donc, c'est une règle qui s'applique vraiment aux officiels amateurs. Mais on a fait une brèche. On a changé un peu l'approche. J'ai mon ami Olivier Gouin, un officiel de très grande classe et très performant de la Ligue junior majeure du Québec, qui a arbitré deux Jeux olympiques. Olivier, lui, a arbitré un match Canada-États-Unis dans un championnat senior. Il me semble que c'est championnat senior ou Jeux olympiques. Là, l'information exacte, je m'en souviens plus, mais les dirigeants avaient décidé à ce moment-là qu'ils faisaient partie des meilleurs officiels disponibles et que les meilleures équipes qui s'affrontaient à ce moment-là, ils faisaient appel aux meilleurs officiels du tournoi. Puis on avait changé, mais pas de façon permanente, cette règle-là.
OK.
En 2010, vous participez aux Jeux olympiques avec des matchs préliminaires, pardon. Est-ce que c'est bien le cas?
Oui, exact. 3 parties en ronde préliminaire. Puis là, ben, je viens de vous dire qu'on n'arbitre pas notre pays d'origine, mais ce n'est pas une règle qui s'appliquait aux officiels de la Ligue nationale. Okay. Donc, les officiels de la Ligue nationale, eux, ils tombaient comme dans une classe disant que, ben, écoute, à l'époque, il y avait uniquement des Canadiens et des Américains qui étaient des officiels de la Ligue nationale. Mais moi, comme officiel amateur, la règle continuait de s'appliquer. Donc, j'arbitrais pas le Canada. Mais j'ai eu le privilège de faire 3 parties en ronde préliminaire. Écoute, expérience incroyable. Quand tu regardes ça, trois parties, tu te dis, OK, dans les championnats du monde, tu en faisais 6, 7, 8, 9, comment ça, juste trois? En fait, c'est que le tournoi est de courte durée et il y a moitié moins de parties, mais on était autant d'officiels. Donc, on était 14 juges de ligne, 14 arbitres. Donc, on vivait à l'hôtel centre-ville de Vancouver. On n'était pas dans le village des athlètes, les officiels. Donc, expérience humaine incroyable avec les officiels de la Ligue nationale, les autres officiels amateurs de partout au monde. Puis, c'est là. C'est d'aller à la découverte de l'autre, de passer du temps à échanger sur nos vies, sur nos familles, sur nos passions, sur nos goûts dans la vie. Donc, puis oui, la partie de hockey, on était super bien préparés. On avait des sessions de réglementation, des vidéos, des sessions de patins pour arriver prêt aux parties. Donc, c'est vite passé. Trois parties avec des collègues de la Ligue nationale, des collègues également amateurs sur les parties comme officiels. Ouais.
Ça doit être quand même fou, ça, parce que les Jeux olympiques, il y en a que c'est leur rêve, ben, peut-être pas en tant qu'arbitre, mais en tant que joueur, ou peut-être pas au hockey. Là. Au hockey, c'est plus gagner les grands honneurs de la Ligue nationale, mais c'est pas rien les Jeux olympiques non plus. Là. Ça va bien être trois parties, c'est trois parties plus que moi et Jérémy ensemble.
Ben oui, puis jamais... Je ne nuise pas en disant ça, c'est que tantôt je vous ai dit, moi je pensais jamais arbitrer une seule partie dans la Ligue junior majeure du Québec, donc imagine quand mon parcours international a débuté, là, moi je suis dans la reconnaissance totale, moi je suis reconnaissant, puis à toutes les fois que je suis allé dans les championnats du monde, les Jeux olympiques, je me disais, ben que d'être là, je vais avoir la meilleure attitude possible, je suis juste heureux. Je vais donner mon maximum, puis je vais faire en sorte que ce soit une belle expérience de vie, une belle expérience humaine. Puis oui, vraiment, c'est... Tu sais, puis de dire, OK, moi, je suis sur la patinoire, là, avec ces joueurs-là, avec ces autres officiels-là. Fait que oui, c'est pas en termes de nombre, en fait, de parties, c'est en termes d'expérience, c'est en termes de qualité de l'échange entre humains qui rend ça vraiment très enrichissant.
Puis cette année-là, j'étais jeune, j'avais juste 4 ans. Est-ce qu'on peut confirmer que c'est l'année du Golden Goal, ça?
Exactement, oui. Okay, j'étais bon. Dans les estrades et te dire comment l'aréna de Vancouver vibrait, là, c'est inimaginable. C'était une belle partie de hockey. Tu sais, les gens me demandent souvent, ah, es-tu partisan d'une équipe et tout ça? Puis moi, je suis partisan d'un bon match de hockey. Puis ce soir-là, à Vancouver, la finale entre le Canada et les États-Unis, c'est une pièce d'anthologie. Là. C'est un match de hockey inoubliable. Donc, qui a terminé avec un but du Canada, au Canada, dans l'aréna à Vancouver. Je me souviens de cette vibration-là qu'il y a eu. Là. On n'en revenait pas. J'étais avec un collègue suédois. Puis il n'en revenait pas de voir la joie qui habitait les gens, puis partout après ça dans les rues de Vancouver le soir même là, à la cérémonie de clôture. Ah, il s'est passé quelque chose de spécial cette année-là. Donc il avait 4 ans, mais je te confirme, Zach, c'était un beau moment.
Pour continuer dans les expériences dans des pays différents, on a ici la Coupe Spengler, un peu moins connue au Québec, là, mais tu as fait la Coupe Spengler en Suisse. Comment ça a été ça?
Donc, une autre belle expérience. Donc, la Coupe Spengler, c'est vrai que c'est moins connu, mais moi, depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis ado, je mettais mon alarme très tôt le matin pour écouter ça à la télévision. Puis là, ben, j'essayais de me trouver l'endroit qui diffusait. Puis j'ai tout le temps eu une fascination pour l'aréna Vaillant qui est en bois. Donc, c'est à Davos, en Suisse, dans les montagnes. Puis, ben pourquoi? Ben écoute, j'ai côtoyé des Suisses dans les championnats. Puis là, à Vancouver, en février 2010, je suis avec des amis, des Finlandais, des Suédois, des Canadiens. Puis là, ben moi, je leur dis ça que ben, moi, je... Dans le temps des fêtes, là, je mets mon cadran, puis je suis championnat junior, puis je suis la Coupe Spengler, puis il fait qu'on voyons, toi. Non, moi, je suis un gros fan, j'aime ça, suivre ça, ça me fait vibrer, j'aime voir le spectacle, voir les juniors jouer avec toute la fougue, tout le cœur, puis j'ai la Coupe Spengler, ben j'avais lu un peu sur le sujet, comme quoi que c'était la deuxième plus vieille compétition après la Coupe Stanley, en fait. Puis que depuis pratiquement les débuts, le Canada y est représenté, puis c'est sur invitation. Puis là, je leur dis ça, tu sais, que Écoute, j'ai vu qu'il y avait uniquement des Suisses qui arbitraient ça, puis waouh, je suis vraiment content pour vous, ça doit être toute une expérience. Puis je dis, écoute, comment ça se passe? Puis là, il me raconte que c'est les familles, puis là, les familles des officiels viennent avec leurs enfants. Puis là, écoute, ils sont reçus, ils vivent à l'hôtel pendant 10 jours, puis ils participent à différentes activités, puis ils incluent le groupe d'officiels avec les équipes. Donc, je fais comme, oh, wow, c'est vraiment plaisant pour vous que ça existe une compétition comme ça, puis vraiment content de savoir ça. Puis quand je vais regarder ça maintenant, savoir que je vous connais quelques-uns de vous, bien, ça va avoir une saveur particulière. Donc, ça reste comme ça. Et on est en février 2010. Puis là, ben moi, au mois de septembre de 2010, je reçois un appel de l'arbitre en chef de la Suisse, qui parlait également français à ce moment-là. Il parlait allemand et français. Donc, je réponds, Reto Bertolotti. Il parlait italien, allemand et français. Donc, je lui réponds. Il dit, écoute, il dit, as-tu de la disponibilité en décembre, janvier, pour venir nous visiter puis arbitrer la Coupe Spengler? J'en revenais pas. Donc, j'ai accepté. Donc, je me suis déplacé là-bas avec ma conjointe. Puis là, il me dit, écoute, j'ai une demande spéciale à te faire. Est-ce que tu serais aussi disponible pour arbitrer deux parties de la Ligue nationale A, la LNA Suisse, donc une ligue très connue, assez forte, calibre assez fort en Suisse. En fait, la Ligue professionnelle suisse, la ligue la plus forte en Suisse. Ben, je dis oui. Donc, j'ai fait une partie également à Zurich, puis une partie à Berne. Okay. Puis après ça, ben, ils m'ont transporté à Davos. Et puis là, ben, j'ai arbitré le tournoi de la Coupe Spengler. Il y avait Dominique Hachek, qui était pour Saint-Pétersbourg l'année que j'y suis allé. Et c'est son équipe, le SKA de Saint-Pétersbourg, qui a remporté la Coupe Spengler cette année-là. Il y avait également invité il y avait une collaboration avec la Ligue nationale de hockey, la Ligue américaine, et mon ami Ghislain Hébert, qui arbitre dans la Ligue nationale là, depuis de nombreuses années. Mais en 2010, Ghislain Hébert était à temps plein dans la Ligue américaine. Donc, on avait fait le tournoi ensemble. Donc, écoute, un accueil incroyable. Logé sur place, avec des rangs, des repas de groupe, vraiment une belle ambiance. Puis à tous les tournois, à toutes les occasions, dont la Coupe Spengler, moi, c'était vraiment convivial. Pas de compétitivité entre les participants, entre les officiels, pas de jalousie, vraiment que du bon temps, que de bons échanges, que de se réjouir pour l'autre qui fait telle ou telle partie. Donc, on était même allé à la montagne faire une descente en luge dans les pistes de ski alpin, mais une piste vraiment dédiée à la luge, se promener parmi la population locale qui l'aréna remplie à toutes les parties. Là, c'est les billets vendus à toutes les parties avec des réceptions après les parties. Donc, une autre belle expérience humaine, un grand privilège d'avoir pu vivre la Coupe Spengler de l'intérieur, pas seulement comme spectateur à la télévision de chez moi.
OK. Mais là, il y a de quoi, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas suivi. Là. Dans le fond, le SKA de Saint-Pétersbourg ont gagné, mais je pensais que c'était des équipes comme la Russie contre la Suisse, contre la Finlande, contre tout ça.
Non, alors c'est vraiment, c'est sur invitation. Moi, c'était la première année qu'il y avait deux équipes de la Ligue nationale A de Suisse, parce qu'auparavant, okay, c'était que Davos. Et là, parce qu'ils arrêtaient les activités de la LNA, donc il y avait une deuxième équipe de la LNA, mais c'est sur invitation, comme l'équipe Canada, d'année en année, elle varie. Ça va dépendre de qui est disponible, qui peut se déplacer. Souvent, des joueurs de la Ligue américaine, des Canadiens qui évoluent dans la Ligue américaine, avec des Canadiens qui évoluent dans des équipes de la Ligue nationale suisse. Puis, par contre, pour ce qui est des équipes belarusses, russes, à l'époque, là, ils les invitaient. Maintenant, c'est plus le cas. Mais finlandaises, suédoises, c'est des équipes, ou allemandes, c'est des équipes qui évoluent dans leurs ligues respectives. Puis, ils les invitent. Donc, ces clubs-là se déplacent avec leur équipe respective. C'est pas comme le Canada. Le Canada, ils vont faire un rassemblement de joueurs pour la compétition. Mais les autres équipes, ils viennent avec leur équipe respective qui compétitionne dans différentes ligues.
OK. Fait que Ivan Demidov pourrait aller gagner ça. Ben, s'il joue des fois.
Tu as énormément d'expérience dans l'arbitrage, que ce soit, mettons, dans une ligue junior versus la LHJMQ ou d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a énormément de changements au niveau du style d'arbitrage?
Auparavant, on pouvait voir des grandes différences, mais je te dirais que maintenant, non. Je vais donner un exemple bien banal. À l'époque que moi, j'ai commencé à international, c'était beaucoup au niveau des procédures que c'était variable. Puis oui, il y avait la réglementation. Mais maintenant, là, au Canada, là, puis aux États-Unis, on fait comme eux, ils faisaient en Europe, dans la Fédération internationale. Mon exemple, c'est le suivant. Quand on appelait un dégagement refusé, le juge de ligne avant, quand la rondelle franchissait la ligne des buts, il fallait siffler, au Canada ça, il fallait siffler et lever le bras. À l'international, c'était uniquement le sifflet. On faisait seulement siffler, puis on ne levait pas le bras. Fait que moi, qu'est-ce qui arrivait, l'osier, moi, quand je m'en allais à l'international, mes premières parties, le bras me partait, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, au lieu de faire à moitié, ben, je le faisais. Puis là, les superviseurs disaient, on te rappelle, Sylvain, procédure internationale. Puis ben, c'est rendu comme ça ici au Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Canada. On siffle, on ne lève plus le bras pour signaler un dégagement refusé. Là, je parle au niveau des ligues provinciales parce qu'au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, on lève encore le bras. Tu sais, c'est des procédures comme ça. Au niveau de l'application de règlement, le Canada, on a fait des modifications à la réglementation. Maintenant, les différences sont vraiment mineures. On pourrait dire que, est-ce que c'est l'ouverture des communications, l'accès plus facilement avec tout ce qui est le web qui a fait que les nations se sont rapprochées, les échanges. Il y a la Ligue nationale aussi qui établit une grande collaboration avec la Fédération internationale. Donc, moi, à mon époque, à moi, quand j'ai arbitré, mes championnats, là, on parle de 2005 à 2010, c'était déjà ramené vraiment à un niveau moindre. Tu sais, on va entendre des commentateurs encore aujourd'hui qui vont dire « Ah oui, on a tendance à appeler plus de punitions. » Bon, mais ça, c'est dans le champ perceptuel parce que dans le fond, ils ont les mêmes consignes dans les meetings avant tournoi. Puis, il n'y a pas personne qui se dit, moi, je vais embarquer sur la glace puis je veux être reconnu comme celui qui appelle le plus de punitions. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le fond, tu embarques dans le tournoi puis tu dis, moi, là, je vais tout faire pour respecter les consignes des superviseurs, des dirigeants du tournoi. Pourquoi? Ben, s'il s'avère que je peux me rendre le plus loin possible dans le tournoi en faisant la bonne application de règlement, tout le monde est heureux, là, tu sais. Mais il reste que pour la finale d'or, il n'y a seulement que deux positions d'arbitre puis deux positions de juge de ligne. Même s'il y a eu 20 officiels qui ont été parfaits, il va falloir qu'ils fassent une sélection pareille.
Effectivement. Tantôt, on avait eu la question là, pour le millième match. C'est drette là que je la pose. Donc, peux-tu nous parler un peu du feeling du millième match? Puis aussi, je veux savoir comment on fait pour faire 1000 matchs dans la LHJMQ alors que tu as été pompier et tu as dit enseignant?
Enseignant, oui.
Ouais. Mais comment on fait ça?
D'ailleurs, ça m'a pris plus de temps que mes collègues qui m'ont précédé à faire 1000 matchs en saison régulière parce que le 1000 combiné, j'avais fait ça en 2019. Donc là, 1000 matchs saison régulière. Comment on fait ça? Ben, écoute, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices personnels, mais aussi beaucoup de sacrifices de la famille, de l'entourage. C'est beaucoup de souper d'amis que tu n'as pas. C'est beaucoup de sorties que tu ne fais pas avec la famille, des week-ends dans des chalets. Pourquoi? Ben, parce que c'est une passion. Puis comment on y arrive? Ben, je martèle ça, mais c'est parce que c'est vraiment dans mes valeurs. Ben, on y arrive en groupe, tu sais, on y arrive parce qu'on croise des bons collègues sur notre chemin. On croise des dirigeants, des superviseurs qui nous font progresser, qui nous donnent des opportunités de mieux faire, de performer. On croise des collègues qui nous donnent le goût d'en donner pour les autres collègues. On établit des bonnes relations aussi avec les entraîneurs des équipes, avec les joueurs, avec les thérapeutes des équipes, avec les préposés à l'équipement des équipes. C'est une affaire de gang, ça, ce business-là. C'est un milieu, c'est une business où est-ce qu'on en retire... Moi, je n'ai pas pu en vivre de ça, mais ça me faisait vibrer. puis ça me faisait vibrer. Pourquoi? Mais parce que j'avais le sentiment de m'en aller avec deux, trois autres officiels, accomplir une tâche, dire « Hey, on va avoir à soir à s'assurer que c'est sécuritaire, cette partie-là, puis à faire les bons appels. Pourquoi? Ben, pour permettre aux meilleurs, aux plus talentueux, joueurs, à la meilleure équipe ce soir de sortir avec la victoire sans que ce soit de façon illégale. Parce que moi, j'ai vécu toutes les époques du hockey, en fait, toutes les époques qu'il y a eu depuis 1990, où est-ce que c'était le hockey d'accrochage, d'obstruction. Moi, j'ai appris comme ça, comme joueur. J'étais un défenseur. J'ai appris à mettre le hockey entre les deux jambes, la main dans le dos, sur un côté, à accrocher. Puis, j'ai vécu l'époque où il y a eu le changement de règles de jeu qui était difficile pour les joueurs, les équipes à s'acclimater. Même moi, comme officiel, au début, là, je suis avec Francis Charron à Bécomo. La première période, là, il a dû appeler 15 punitions. Je n'ai pas vu une. Puis là, j'ai dit à Francis, c'est comme ça vraiment que la Ligue, elle veut qu'on… Il dit, oui, Sylvain, il dit, écoute, j'ai regardé les vidéos. Il savait ce qu'il faisait, Francis. Hein. Et après ça, il a progressé dans la Ligue nationale. Là, c'est pas pour rien. Il savait où s'en allait avec ça. Il l'avait regardé vidéo. Et là, deuxième période, oh, OK. Là, j'ai vu qu'est-ce qu'on… Tellement habitué de voir de l'obstruction, de l'accrochage. Puis aussi, j'ai vu des choses, les bagarres. Tu sais, on est la seule ligue au pays, là, dans la Ligue canadienne de hockey, à avoir banni les bagarres. Puis, savez-vous quoi? Le spectacle, là, souffre pas du tout. L'équipe qui a gagné la Coupe Mémorial il y a 2 ans, les Remparts de Québec, là, c'est une équipe qui n'avait quasiment pas eu de bagarre dans l'année. T'sais. Est-ce qu'il va en avoir encore? Bien, il y en a encore. C'est l'émotion. Des fois, l'émotion, l'humain réagit comme ça, puis sous le coup de l'émotion, on est vrai ailleurs. Donc, moi, je trouve que ces époques-là, là, la partie est rapide. Le mot français, là, les skills, les joueurs là, ont tellement de talent, ont tellement d'habileté. Là, c'est beau à voir, c'est un beau spectacle. Là. Quand les gens se déplacent dans un aréna de la Ligue junior majeure du Québec, là, c'est certain qu'ils vont avoir un beau spectacle. C'est rapide, jeu individuel, jeu collectif, là, c'est extraordinaire. Donc, ouais, un grand privilège de voir tout ça.
Ça, on aime ça. 90% de notre contenu parle de LHGMQ. D'après moi, Claude, qui est dans les coulisses en ce moment, il a lâché un sourire parce que ça vaut la peine d'aller voir des matchs juniors. Sinon, on a des commentaires. Joe Lemay, Sylvain arbitre maintenant avec les enfants d'anciens arbitres, comme par exemple Émile Charron, le fils d'Éric.
Oui, effectivement. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y en a d'autres là, que je n'ai pas vu cette année, mais qui viennent de progresser dans la Ligue junior majeure du Québec. Émile, c'est sa 2e ou 3e année. Émeric Massé, j'ai arbitré avec son père Yannick. Benjamin Fortin, nouveau juge de ligne, qui fait également de la Ligue américaine. J'ai arbitré avec son père François Fortin, qui est l'arbitre en chef de la Ligue junior 3 du Québec et de la Ligue universitaire. Donc, écoute, j'en oublie-tu? C'est sûr, j'en oublie. Mais bon, écoute, c'est un privilège de… Puis je me sens tellement choyé. Là, je suis plein de gratitude de pouvoir d'être en forme, d'avoir la santé, puis de pouvoir patiner avec les enfants d'amis, d'anciens collègues.
Parfait. Là, je regardais dans les commentaires, mais Claude a déjà répondu. Oui, depuis 1993, il arbitre dans la LHGMQ. Mm-hmm. Jérémy, je vais te laisser la prochaine.
Oui. C'est quoi la plus grande marque d'honneur que la Ligue peut faire à un arbitre au niveau junior?
Écoute, il y a une politique de reconnaissance qui a été instaurée dans les 15 dernières années par notre directeur des officiels, Richard Trottier. En fait, je pense que c'est à différents niveaux. Le plus grand honneur, là, c'est de reconnaître les sacrifices qu'on fait, l'engagement, puis c'est souligné maintenant, mettons 5 ans, 10 ans, 15 ans, une sélection pour la partie d'étoiles. Donc, il y a différents souvenirs, objets souvenirs. Puis, c'est vraiment humain. C'est vraiment le côté humain, je te dirais. Est-ce que toi, tu voulais plus parler en termes de sélection pour un événement spécial ou en termes plus de…
C'est ça. J'aime vraiment votre réponse, mais oui, est-ce que, mettons, il y a des sélections pour des événements? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a un objet qu'on vous donne ou quelque chose comme ça?
Donc oui, maintenant, on reçoit, écoute, dépendamment, là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, allant, tu sais, plus ça fait d'années, plus que tu as une montre de la Ligue, bague de la Ligue. Donc, ouais, on est vraiment choyé, on est vraiment. Puis tu sais, ben, après ça, c'est être sélectionné, puis ça dépend des objectifs personnels de tous et chacun, tu sais, mais tu sais, chaque partie c'est un plus là, dans notre carrière, avoir l'opportunité de fouler la glace avec. Moi, j'aimerais ça pouvoir arbitrer au moins une partie avec tous mes collègues de la Ligue, c'est impossible parce que, bon, on est nombreux maintenant, mais ben, les sélections dans les séries, les sélections au match d'étoiles, au défi, j'ai fait la première classique hivernale, tu sais, si je parle pour mon cas, en fait, là, je vais parler pour ma situation, tu sais, c'est vraiment des immenses honneurs là, pour moi, de première classique hivernale, j'avais eu le bonheur de faire ça à Saint-Tite, avec justement Éric Charron, le père d'Émile, avec Stéphane Capano. Donc, tu dis, OK, là, ça marque l'histoire. Puis là, ben, si je recule plus jeune, mettons, faire une première partie de série éliminatoire. Wow, OK, là, après ça, ben, la première finale. Après ça, arbitrer une partie numéro 7. D'une série éliminatoire, tu disais, hey, c'est la série, c'est le match décisif, arbitrer la partie numéro 7 de la finale. Tu fais comme, OK, wow, là, je vais partager ça avec des collègues, c'est une confiance de mes patrons, là, ils me choisissent, c'est un des deux juges de ligne, avec l'immense privilège de faire la partie numéro 7, là, c'est à soir que ça se décide, tu sais, donc, puis après ça, ben ultimement, être choisi pour la Coupe Mémoriale. Donc, c'est au niveau, si on veut, hockey, compétitif, sélection, là, c'est à ce niveau-là, mais au niveau aussi collègues qui reçoivent des prix là, à différents moments, là, on est vraiment choyé. C'est une belle politique de reconnaissance qui a été mise en place par Richard Trottier. Je ne sais pas si c'est moi qui ai perdu le son, mais je ne t'entendais pas, Zach.
J'ai été muté, pardon. Est-ce que vous avez porté le numéro 71 toute votre carrière?
Donc, ben oui, j'ai porté le numéro 71 toute ma carrière. Au début, on n'avait pas de numéro. On avait seulement que nos noms dans le dos. Après ça, on a eu une portion seulement que le numéro. Puis, ben, depuis plusieurs années, le nom et numéro. Puis pourquoi? Au début, quand les numéros sont arrivés, ils nous ont dit... de 1 à 30, ça va être les arbitres. Avec les juges de ligne, ça va être de 31 à, peu importe, 99. Puis moi, j'avais un numéro fétiche que j'ai eu dans les sports, puis qui s'est représenté souvent dans ma vie pour différentes occasions. Ça veut dire ce que ça veut dire ou ça veut rien dire, peu importe. C'était 17. Fait que là, moi, j'ai dit, bon, 17, 71. Fait que c'est quand je suis arrivé à mon tour de faire le choix, ben, il était disponible. J'ai dit, 71. Puis c'est celui-là que je porte depuis ce temps-là.
Y a-t-il des numéros retirés pour les arbitres ou ça n'existe pas?
Ben, en fait, il y en a un qu'on n'utilise plus. C'est l'ex-collègue Stéphane Provost, qui était un officiel de la Ligue nationale, un juge de ligne, qui malheureusement, en 2005, a eu un accident en motocyclette et a perdu la vie. Depuis ce temps-là, le numéro 72, c'était mon ami Luc Voyer qui le portait. Mon ami Luc Voyer, originaire du Saguenay, qui vit à Sherbrooke depuis de nombreuses années. Puis Luc avait comme remis le numéro à la Ligue pour dire, écoute, c'est Stéphane Provost, il vient de perdre la vie, il portait ce numéro-là dans la Ligue nationale. Puis Luc avait eu le 89 à ce moment-là, puis on ne l'a pas donné à personne depuis le numéro 72.
Avec le 71, c'était assez proche pareil.
Oui. J'ai eu le privilège d'arbitrer avec Stéphane Provost, qui avait été également un pompier à Ville-d'Anjou. Stéphane avait fait ses études, il avait été pompier à Ville-d'Anjou avant d'être engagé comme juge de ligne à temps plein dans la Ligue nationale.
Parfait. Question de David, ben, on l'a un peu posé. Mais je veux savoir, il y a combien de matchs derrière la cravate? Donc, 1000 et plus, mais combien exactement?
Dans la Ligue junior majeure du Québec, là, maintenant, là, écoute, le site là, saurait le dire mieux que moi, mais je suis rendu à 1230 quelques, je crois. Je suis à 1004. Tiens, 1004 plus 238, donc 1242.
OK, parfait. Sinon, quel arbitre est le meilleur conducteur? Demande Joe Lemay.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ce serait injuste d'en nommer qu'un seul. Écoute, maintenant, moi, je suis conducteur dans les déplacements. Donc, c'est le plus vieux du staff. Donc, je suis plus vieux en ancienneté et en âge depuis 2019. Donc, c'est moi qui assure le transport des parties sur lesquelles je vais arbitrer le covoiturage.
Parfait. C'est bon. Fait qu'on va pouvoir aller à la mise en échec.
La mise en échec est une présentation de CAG Sport pour des RAS de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futurs breaks de boîtes de cartes. Consultez la page Facebook CAG Sport. Mise en échec.
Donc là, mise en échec, c'est là qu'on essaie d'avoir des anecdotes. Si on a les bons contacts, on en trouve. Là, malheureusement, on n'en a pas. Mais bref, nous, on a soit le moment de bienvenue dans la ligue, qu'une fois tu as eu l'air fou, une fois tu étais fier d'un move ou peu importe. Sinon, Joe Lemay qui demande, as-tu des anecdotes hors glace pendant vos voyages sur la route?
Écoute, dans les années qu'on vit maintenant, il y a eu beaucoup de sorties. On était beaucoup, on socialisait beaucoup, mais on se disait toujours, écoute, c'est la partie avant tout. Écoute, le premier bout que tu as dit, Zach, là, les moments de bienvenue, tu mentionnes?
Oui, bien, mettons, c'est plus facile à poser aux joueurs, ça. Là. Mais tu sais, ouais. Les joueurs, ça peut être une fois qu'ils ont eu l'air fou, quelque chose qui était content, genre...
Ouais. Écoute, tu peux... j'en ai une anecdote, tiens. À mes débuts, il y avait un arbitre très populaire auprès des partisans et des équipes dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Il s'appelle Luc Lachapelle. Puis, on m'avait dit, tu sais, hey, tu vas l'arbitrer avec Luc, tu sais, fais attention à toi, il joue bien des tours, fait que... Juste à le dire, ça se peut qu'il... Tu sais. Puis moi, ben, je suis issu d'une génération qui a subi des initiations. Tu sais. Donc, moi, dans ma génération, là, moi, j'ai joué au baseball junior. J'ai joué avec les Ducs de Longueuil, les Indiens de Rosemont. Puis après ça, j'ai terminé avec les Diplomates de Saint-Hubert. J'ai eu des initiations. Puis bon, peu importe. Fait que j'arrive... j'ai un voyage qui m'est assigné avec Luc à Chicoutimi. Donc... il me donne le point de rencontre, puis je m'en vais le rejoindre, puis là, ben, j'embarque avec lui, on s'en va à Chicoutimi. Puis là, à un moment donné, en plein milieu du parc des Laurentides, donc parce que le parc des Laurentides, auparavant, c'était une voie dans chaque direction. Là, on rencontrait tout le long, entre Québec puis Chicoutimi. Puis là, il arrête en plein milieu. On avait érigé un tipi à quelque part dans le parc des Laurentides. Là, ceux qui l'ont fréquenté, ils vont savoir de quoi je parle, là, les plus vieux. Zach, t'avais 4 ans en 2010, donc c'était plus le cas. Puis là, Luc arrête, puis là, il me dit, il me donne puis c'était un grand et gros taupin, il travaillait comme animateur de loisirs dans les pénitenciers fédérales à Laval. C'était un grand et gros taupin, Luc. Puis moi, ça allait bien avec lui, on avait jasé, écouté de la musique, on chantait, bon. Puis, il m'avait dit, va dire à personne dans le tipi que Bill est passé, tout va bien aller. Bill, c'est le surnom de Luc Lachapelle. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, hey, le grand, remets ça sur Drive, puis amène-nous à Chicoutimi, ça presse, moi, je débarque pas du char. Fait qu'il avait fait comme, ah, j'aime bien ça. On arrive à Chicoutimi, puis moi, à ce jour, dans les chambres de hockey, tous mes collègues sauront vous le dire, moi, je n'ai pas de place. Moi, je prends la place de libre, mais par habitude, il y a des endroits où je vais, mais partout où je vais, si elle est libre, la place, je vais m'installer là. Si on va arbitrer, et trois ensemble, les gars, Jerry, Isaac, puis vous rentrez avant moi dans la chambre, vous prenez une place, moi, je ne vous tasserai pas, ça ne me dérange pas, je vais prendre la place qui est disponible, tu comprends? Donc, bon, j'arrive à Chicoutimi. Puis, la façon de faire à l'époque, c'était on dépose notre sac dans la chambre, on s'en va au restaurant de l'aréna, on prend un café ou un chocolat chaud, on s'assoit dans les estrades, puis on regarde le début du warm-up, on s'en va s'habiller. Fait que moi, j'aimais beaucoup m'étirer, me réchauffer, mais c'était pas à mode dans le temps. Fait que je suivais les plus vieux. Fait que là, on arrive dans la chambre, je les laisse prendre leur affaire, puis moi, je prends ma poche d'arbitre, puis je la mets dans la douche. Puis là, on s'en va au café. Puis là, quand on revient, là, je le vois qu'il cherche de quoi, parce que je m'étais dit, ma place, ça va être sa place. Fait que Là, il voit que je n'ai pas sorti ma poche. Il dit, hey, où ta poche, toi, Jean? Pourquoi? Fait que là, elle est dans la douche. Fait comme, ah, il y a quelqu'un qui t'a parlé. Je dis, non, moi, je te laisse te placer. Moi, je vais prendre la place qu'il y a de libre. Fait que ça l'avait bien fait rire. Puis après coup, ce que j'avais su, c'est qu'il avait pris de l'information sur moi. Il y avait un de ses bons chums qui était pompier à Montréal, qui m'avait croisé, puis qui avait dit, hey, tu vas voir le jeune Lausier, écoute, il y en a dedans, tu vois, c'est un bon Jack, puis tout ça. Puis avant d'embarquer sa patinoire, il y avait quelque chose dans la main, il aimait ça, tu sais, il aimait ça faire des tours, c'était l'époque du noir à chaussures, c'était l'époque du beurrage. Fait que moi, j'avais caché mes patins pour pas qu'il me mette du noir à chaussures sur mes lacets blancs, tu sais, pour déstabiliser un petit peu. Puis c'était les jokes du temps, là, tu sais. Fait qu'il avait pas pu faire ça, puis des fois d'après, il n'avait pas réessayé d'autres choses, puis il n'avait pas essayé de me jouer des. Mais c'est qu'à l'époque, aussi, des anecdotes de route, c'est que j'ai fait beaucoup de routes avec mon bon chum Nicolas Dutil. Puis on allait à l'autre bout du monde. On allait au Cap-Breton en auto, on allait à Halifax en auto. Puis il me demandait tout le temps d'apporter mes disques, mes CD. Fait que j'avais un gros cartable de CD. Puis pour les faire jouer et jouer dans l'auto, ça prenait le Discman, ça prenait l'insertion de cassette. Puis là, tu te mettais un Discman, tu mettais tes CD. Puis écoute, on aimait bien, on chantait, on mettait des tunes, on aimait bien gros chanter, on jasait. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, là. On n'avait pas de cellulaire, on ne pouvait pas passer notre temps sur le cellulaire, tu sais, dans nos nombreuses heures. Fait qu'on aimait bien gros chanter, partager ça. Puis as-tu entendu la dernière tune? Puis on arrivait tout le temps avec un nouveau CD. Fait que tu sais, c'était bien gros. C'était la chimie, tu sais, on ne réalisait pas ça, mais on développait une chimie ensemble dans le respect, tu sais, fait que beaucoup, beaucoup de respect, moi, sur la route, là, tu sais, que ce soit dans les chambres d'hôtel, que ce soit dans les chambres d'habit, les choix de restaurant, tu sais, s'organiser pour être un bon coéquipier, là, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût, qu'est-ce que tu as envie, il y en a qui aiment mieux coucher sur le bord de la fenêtre, ben vas-y, couche sur le bord de la fenêtre, ça ne me dérange pas. Donc, beaucoup, beaucoup de, c'est ça, avoir des bons moments, puis que tout trouve son compte, puis ceux qui ont plus, mettons, d'exigence ou ce qui se sentent moins à l'aise avec l'improvisation, ben que tout le monde puisse avoir sa place là-dedans.
Parfait, ça. Fait que, écoute, on va y aller avec les tirs de barrage, notre dernier segment. Après, on te laisse passer une belle soirée.
Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Vas-y, mon G.
Oui. C'est quoi ton foursome de golf de rêve? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire, un foursome? Peut-être, ouais, c'est bon.
Juste un. Parnoche. Écoute.
Ça peut être célébrité, quelqu'un est décédé, peu importe. Là.
Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis très sensible aux connexions humaines, tu sais. Fait que là, je me monte un foursome d'officiel, tu sais. Hein, en passant, je voulais vous dire, les gars, j'aime ça vos vidéos entre les segments, mais votre arbitre, là, la prochaine fois, fait-y attacher son casque, tabarnouche. On fait attacher le casque des joueurs, ouais.
Je vais prendre un 10 minutes, c'est de ma faute, c'est de ma faute.
Donc, non, écoute, je suis très sensible. Moi, j'ai... Ça va être difficile. OK. Ben, écoute, je me lance. Je monte un foursome m'incluant, là, puis je trouve un juge de ligne, puis deux arbitres. OK. Ben, moi, là, mes deux potes, là, mes deux buddies avec qui j'ai eu énormément de fun, tu sais, de mes 15 ans, son père, c'était mon premier arbitre en chef, Marc Muller. C'est un arbitre qui est retraité de la Ligue junior majeure du Québec. Marc, il a pris sa retraite. Fait que Marc Muller, j'ai grandi avec lui à Longueuil, dans le régional. Puis après ça, ben, on a arbitré ensemble dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis pas longtemps après, on a connu notre chum, François Saint-Laurent. François, qui est un officiel de la Ligue nationale depuis le début des années 2000. Donc, ce serait ça. Puis, comme juge de ligne, ah, tabarnouche. Ça c'est vraiment tough. Comme juge de ligne, écoute. Hey,
ça, c'est un exercice très difficile que vous m'imposez là. Écoute, j'aurais pu faire, je pense, un tournoi de golf. donc, tu sais, François, je suis encore en contact avec lui. On se voit, écoute, occasionnellement, mais quand on reprend ensemble, là, c'est comme si on s'était vu la veille. Marc, c'est pareil. C'est des gars avec qui, tu sais, que j'ai partagé nombreuses heures de route, de ligne. Écoute, j'ai tellement eu de plaisir avec une multitude de personnes comme juge de ligne. Ah ben, tiens, je vais y aller. C'est rendu notre superviseur. C'est un humain qui m'a marqué. Parce que quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé d'arbitrer, la première fois que quelqu'un m'a formé sa glace comme futur arbitre, il s'appelle Jean Morin. Puis j'ai été marqué à 15 ans par sa gentillesse, sa générosité à donner des conseils clairs et fermes. Mais il était rigoureux, mais il n'était pas rigide. Puis Jean, après ça, je l'ai revu. Je n'ai jamais arbitré avec Jean. Je l'ai revu aux Jeux olympiques de 2010. Mais entre-temps, j'avais eu le temps de ramasser. Moi, quand j'ai commencé à 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'allais arbitrer au Colisée Jean Béliveau. Puis ma mère, elle nous amenait souvent, ma sœur et moi, voir les parties des Chevaliers de Longueuil avant que ça devienne l'éthique de Victoriaville. Puis des fois, il y avait dans la poubelle des lacets, tu sais. Puis là, on rentrait, les arbitres, parce qu'on arbitrait pas longtemps après la partie, puis il y avait encore des arbitres de la Ligue junior majeure du Québec. Puis Jean, il était là à l'époque, puis il était tout le temps fin, tout le temps smart, tout le temps en train de poser des questions. C'est quoi le calibre, les gars, que vous allez faire, c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis je me disais, je ramasse peut-être les lacets qui avaient l'air quasiment neufs pour moi, tu sais, qui commençaient dans le niveau local, mais que lui, il changeait pour que ça chaîne au bout dans le junior majeur. Puis il était gentil. Puis après ça, ben c'est ça, écoute, je l'ai croisé à différentes occasions. Il venait donner des conférences dans la région Richelieu. Parce que Jean, il vient du coin de Sorel-Tracy, puis ben, Longueuil, ça fait partie du Richelieu au hockey. Hein. Puis j'ai eu l'immense privilège de faire partie du même tournoi que lui, à Vancouver, aux Jeux olympiques 2010. Puis écoute, il m'offrait d'aller prendre une marche avec lui, d'aller magasiner des fameuses mitaines rouges Canada qu'il vendait à l'abbé, puis tout ça. Je disais toujours oui. Oui, Jean, oui. Puis Jean, ben, il a pris sa retraite, je me souviens plus, ça fait combien d'années, mais il est devenu superviseur dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, puis il a la responsabilité des juges de ligne. Fait que là, ben, j'ai encore le privilège de pouvoir compter sur ses judicieux conseils. Le groupe d'officiels, on est vraiment privilégiés. Fait que, ouais, ce serait ça, mon foursome.
Parfait. La place la plus boring ou plate à arbitrer?
C'est une place où il n'y a pas d'ambiance. Je ne dirais pas que c'est une place où j'ai froid parce que j'ai froid partout. la place la plus... Écoute, tu parles... Ben franchement, là, quand il est question d'arbitrer, il y a des endroits où j'ai trouvé ça difficile à arbitrer, mais pas parce que c'était parce que les installations, par exemple, étaient plus anciennes, étaient plus. C'était dans ma ville natale, l'Aréna Jacques-Cartier. Je trouvais ça difficile d'arbitrer l'Aréna Jacques-Cartier pour ceux qui connaissent l'endroit. Je trouvais ça difficile, mais pas boring par rapport à. Mais, on gelait tellement, c'était fou, là, comment on gelait dans cet endroit-là, puis je trouvais ça pénible, puis Anna, t'as l'impression, là, c'est tout petit, mais boring, le mot est gros. J'ai vécu des belles expériences, là, comme joueur, là, mais c'était l'endroit que je trouvais le plus difficile à aller arbitrer quand j'étais dans mes débuts.
OK. Je vais être obligé de spécifier, parce que sinon, nos auditeurs, pas, ils seront pas contents, là, mais mettons, si on parle de LHJMQ,
de LHJMQ.
Ça peut être une ancienne ville, ça peut être une équipe qui n'existe plus.
Ah, ouais. Mais tu sais, moi, là, j'aime aller arbitrer partout, vraiment. Je ne suis pas en train de dire que, tu sais, y a-tu des places? Moi, je pourrais te dire les places où c'est plus le fun d'arbitrer, tu sais.
Ça arrive ouais. Après ça.
Ouais. On arrive à ça. OK, ben moi, écoute, où est-ce que... Ben, tu sais, ça a été à différentes époques. parce que c'était beaucoup au niveau de la qualité des installations puis du confort encore là, mais ils ont apporté vraiment des améliorations. Tiens, je vais dire, l'ancienne aréna de Rouen, avant les rénovations, c'était pas boring, mais c'était des installations qui avaient besoin beaucoup d'amour. Puis là, ils ont fait, Joe Lemay, il va savoir de quoi je parle. Ils ont fait des rénovations, c'est extraordinaire maintenant, mais tu sais, c'est pas boring. C'est pas dans le sens d'ennuyant, c'était plus dans le sens de les installations, il y avait besoin beaucoup d'amour, puis on leur en a donné. Puis aujourd'hui, écoute, t'as des estrades, la foule embarque, tu sais, puis ils ont des équipes compétitives, puis tout ça, mais c'était une place là que, ouf, il y avait besoin de mettre beaucoup de sous, puis à un moment donné, les paliers gouvernementaux, ils ont eu des sous pour faire les rénovations, fait que ça s'est beaucoup amélioré depuis. Là.
OK. Certains des joueurs nous disent ça, là. Les arbitres, là, voyez-vous que ça a l'air la zone neutre en Abitibi est vraiment trop petite?
Elle est plus petite. À Rouen, c'est clair. Là. Oui, oui. Oui, la zone neutre là, à l'aréna de Rouen. Là, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Écoute, Drummond aussi. Écoute, moi, j'ai connu l'époque où il y avait des passes deux lignes. Là. Peut-être que ça ne vous dit rien, vous autres, les gars. Là. Des passes de zone. En tout cas, la passe ne pouvait pas franchir la bleue et la rouge. Il fallait que le joueur il touche au moins à la ligne rouge avec sa lame de patin. Fait qu'on le voyait, là, Rouen puis Drummondville, là, les zones neutres sont vraiment étroites.
OK. Ben ouais, c'est ça. De toute façon, pour le juge de ligne, ça en fait moins à patiner un peu.
Tu as d'affaire à te tasser des jambes, c'est sûr.
Ouais, OK, ouais.
Ça, tu ne veux pas bloquer une passe, tu ne veux pas couper un jeu. Tu veux pas. C'est pas tant au niveau de qu'est-ce qu'on a à patiner, c'est plus au niveau du positionnement pour ne pas bloquer le jeu.
OK, parfait.
L'amphithéâtre dans lequel tu as préféré arbitrer?
Donc, l'amphithéâtre dans lequel j'ai préféré arbitrer, c'est parce que j'ai vécu tellement de moments forts là, à ces endroits-là, c'est le Colisée Pepsi. Donc, j'ai vécu des moments vraiment… Ma première Coupe Mémoriale en 2003, puis j'ai revécu la fin du Colisée Pepsi, la Coupe Mémoriale 2015. Donc, j'ai vécu des moments, puis j'ai vécu aussi le championnat du monde 2008 au Colisée Pepsi. Donc, Colisée Pepsi, là, quand il était plein, quand il y avait du monde là, qui assis devant la bouche de ventilation là, dans la section en haut, là, tu disais, OK, là, ça déborde, là, il n'y a plus un siège de libre. L'ambiance qu'il y avait là, j'ai vécu également, avant même de faire mes premiers pas dans des… j'ai vécu le match Canada-États-Unis. À cet endroit-là, Simon Gagné jouait à l'époque pour le Canada. C'est un match ça, c'est en 2005. C'est un match qui est populaire, pas pour nécessairement des bonnes raisons. Vous savez, c'est la partie où la chanteuse de l'hymne national avait oublié les paroles. Elle avait quitté la glace, puis était revenue, puis elle avait fait une chute. Donc, peut-être que ça ne vous dit rien. Vous allez faire une recherche YouTube, vous allez tomber là-dessus. Là, mais... Donc, on n'avait pas beaucoup parlé... on m'avait beaucoup parlé de cet événement-là, mais oui, le Colisée Pepsi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de moments, de bons moments à cet endroit-là.
Je comprends totalement. J'ai énormément aussi beaucoup de moments que j'ai vécu là-bas. J'ai juste joué au mini-hockey avec plein d'enfants que tu connais pas. C'était vraiment plaisant quand tu es tout petit. Là.
Ouais.
Moi, j'ai l'Abitibi, fait que la grosse affaire, c'était la glace des Foreurs.
Yes.
OK. Sinon, Mathieu qui demande, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur la destruction du centre Robert Guertin? Mathieu, je pense que ça t'a frappé ça, parce que ça fait deux fois ta pause.
Destruction. Écoute, je peux dire, le nouvel endroit qu'ils ont construit, le Slush Puppy, est incroyable. C'est incroyable, c'est beau, c'est... j'ai eu des bons moments là au centre Robert Guertin aussi. Là. Il y a la foule de Hall, là, Gatineau, là. J'ai eu des bons moments, mais j'ai pas vraiment d'opinion. C'est des décisions politiques là, sur la. Peut-être que les partisans ils s'ennuient peut-être de la chaleur du centre Bob, là, parce qu'il y avait une chaleur partisane là, mais les dernières années, avec moins de partisans, avec un aréna qui avait besoin d'investissement, là, ce qu'ils ont fait là, avec le Slush Puppy, là, c'est vraiment incroyable. Mais les années, là, les grosses années. Avec Roberto Bissonnette, ta parouette, écoute, c'était quelque chose aussi. Là, c'était une foule qui était exigeante. C'était une foule qui était dedans, qui était très partisane.
Parfait. Dans quel sport Sylvain aurait arbitré si tu n'étais pas dans le hockey?
Hey, j'aurais arbitré au baseball. J'ai arbitré au baseball d'ailleurs. J'ai arbitré pendant 3 ans. J'ai adoré ça. Puis à un moment donné, quand est venu le temps de peut-être progresser à des niveaux supérieurs, on m'avait demandé d'arrêter de jouer. Fait que j'avais dit, oh non, je continue de jouer. Moi, j'avais à l'époque 18-19 ans. J'ai continué de jouer jusqu'à 21. À l'époque, le baseball junior nous permettait de jouer jusqu'à 21 ans. Maintenant, c'est 22. Donc, c'est définitivement le baseball.
Je pense que Justin Saint-Pierre, il y a deux semaines, avait dit ça aussi, le baseball.
Ouais, on a mis Justin. J'ai arbitré avec Justin dans les ligues junior 3, midget 3, universitaire, junior majeur. Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais au Sylvain qui commence le métier?
Ben écoute, quelqu'un qui accède par exemple au niveau junior ou qui débute là?
Quelqu'un qui débute complètement dans le métier. Ça peut être un des deux aussi, mais quelqu'un qui débute.
Quelqu'un qui débute. Écoute, fais ton mieux. Tu vas faire des erreurs. Ça va arriver des soirs que tu vas te tromper. Mais si tu connais tes règlements, ça se peut que tu te trompes aussi, mais si tu donnes un effort constant, tu t'engages, puis tu as le respect, tu t'offres le respect, tu donnes le respect, tu peux demander le respect, tu connais les procédures, tu vas avoir des préjugés favorables, puis apprendre tes erreurs, puis ne ménage jamais les efforts, puis organise-toi pour être le meilleur coéquipier du monde. Donc, sois prêt pour tes coéquipiers, pour les joueurs, les entraîneurs. Puis, ça va arriver des soirs que tu vas être inconfortable, mais continue quand même parce qu'au final, c'est une école de vie. Puis, ça va faire de toi quelqu'un qui va apprendre à composer avec des situations stressantes, qui va être meilleur aux entrevues dans peu importe l'emploi que tu feras. Je pense que ça va t'apprendre à composer avec différentes situations. Ça va t'apprendre à composer avec la pression. Puis, ce ne sera pas toujours facile. Ce ne sera pas toujours rose. Mais au final, le bonheur que tu en retires, puis le bonheur que tu en retires, puis le sentiment d'accomplissement là, va être plus grand que tout ça.
Parfait. Écoute, Sylvain, dernière question. Tu as été très généreux de ton temps. Après, on te laisse partir. Que pouvons-nous te souhaiter pour la suite?
Pour la suite dans le hockey, tu peux me souhaiter de rester en santé parce que j'ai envie de poursuivre encore quelques saisons. Donc, moi, je travaille sur la forme. Donc, de rester en santé et de pouvoir poursuivre au même niveau que je suis, offrir les mêmes performances attendues puis de pouvoir aussi arbitrer avec tous ces nouveaux jeunes officiels-là qui viennent d'accéder au circuit. Ça, c'est mon grand bonheur. Puis de pouvoir, c'est ça, garder la forme pour éventuellement le redonner sous une autre forme, là, peut-être la supervision éventuellement. Donc, c'est ça que vous pouvez me souhaiter, de garder la fibre vivante, là, la flamme vivante en moi pour l'arbitrage.
Parfait, c'est certain qu'on te le souhaite. Merci encore, une belle heure et 20. Très généreux de ton temps. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci les gars, ça a été un plaisir. Merci à vous autres.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Tabarouette. Merci encore, Jérémy, d'avoir remplacé Sébastien. D'après moi, t'es pas déçu. Ça a été un très bon podcast, très intéressant.
Oui.
Il a pas été plate à interviewer, monsieur.
Non, c'est un plaisant.
Oui, effectivement. Là, on s'éternise, on va passer au ref. En passant, attache-les ton casque. Fait que là, le joueur, quand il est arrivé, là, il a mis son stick en dessous. Ben, il a mis son bâton, il a poussé ce jour-là. Il avait la porte.
Ah, le casque est attaché, là.
Oui, salut les boys. Ben oui, la tienne est attachée, c'est ça. Dans les premières vidéos, il était brisé. Puis là, ben, c'est ça. Je m'étais arrangé quelque chose. Puis bon, ben oui, je vais le prendre les 10 minutes. C'est Sylvain qui me l'a donné. C'est un juge de ligne, mais il a le droit de me donner une punition majeure.
Par contre, j'ai trouvé ça drôle en maudit. Je suis là, je suis goaler, j'ai pas de casque, puis c'est toi qui n'as pas attaché son casque vu.
Hey les boys, Sylvain en a parlé tantôt, là, mais j'ai goût de vous faire vivre ça. Là. Je ne sais pas si ça vous tente. Donnez-moi 2 secondes, j'essaie.
On n'a jamais 9 mois à dire d'habitude.
Oh non, mais parce que là, je veux tellement vous montrer ça. on va revivre le moment, le Golden Goal. Okay. C'est petit.
The Golden Goal! It was a final ending you had to see.
Oh, ta gueule.
Attends, alors start ça, je mets ça en gros écran.
The Golden Goal.
Hey, c'est-tu moi ou...
Là, t'as pas la même vidéo, man.
Non, t'es pas à la même place.
Non.
T'as pas la même vidéo. Enlève ça.
Bon, on va laisser faire ça. L'arbitre est trop mauvais.
On l'a vu pareil, il y avait pas de
ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, écoute, oui, Zach, il y avait 3 ans qu'elle s'est réveillée, 4 ans. Bref, mais moi, je m'en souviens encore comme c'était hier. Je vibrais dans mon salon. C'était écœurant. Fait que tout ça pour dire qu'on va passer avec... qu'est-ce que je voulais dire? Hey, la victoire de Montréal qui a remporté leur match d'ouverture hier. Donc, 4-3 en prolongation sur contre la charge d'Ottawa, Ottawa Charge. Donc, un but. Faut dire que c'est qu'en tir de barrage là, dans la PWHL, les filles ont le droit de revenir plus qu'une fois. Donc, Marie-Philippe Poulin, qui avait manqué son premier essai, est revenue en 5e ronde. Puis, en 5e ronde, elle a donner la victoire à la victoire de Montréal. Excusez, c'était un mauvais jeu de mots, mais c'est comme ça. Hey, ce que vous souvenez, oui, ça va arriver souvent. C'était même pas voulu, là, c'était même pas pour niaiser. C'est vraiment parce que c'est ça qui est arrivé. Les gars, si je vous dis, c'est qui a été à la Série mondiale du baseball, les deux équipes? Est-ce que vous êtes capable de me le dire?
Dodgers-Yankees.
Dodgers-Yankees, donc New York contre LA. Fait qu'on a la Coupe MLS qui s'en vient. La Coupe MLS, ça va être New York-LA. Fait que c'est ça. Donc, le Red Bull de New York et puis le Galaxy de Los Angeles qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe MLS.
Hey. Donne-moi oui. 2 secondes, mets mon écran, moi je suis comme un vaisseau.
Oui, OK.
L'as-tu mis?
Oui.
J'ai un petit son. Oh. Et là.
C'est incroyable. Encore des sons, sauf qu'on n'a pas plus de son.
T'avais pas de son?
Non, moi, j'avais pas de son.
Tabarnak. Bon, hey, c'est échoué, mais on a vu au moins.
La technologie, ça.
Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est un essai, c'est du live. Écoute, on va être plus sharp les prochaines fois. Bref, on va passer à l'ovation du ref.
Une fin, Veilleux s'amène. C'est hey! Qu'on va le prendre.
Quel tir de Veilleux! Batters gaffe, Veilleux marque, c'est 3-0.
On va le forcer à passer à Bourroche. Un tir bloqué, retour. Et quel arrêt de Blackburn!
Comme arrive la fin, ça va en son but. Incapable de tirer, contourne le filet, revient devant. Et but!
Bien créé par Poirier, de l'autre côté, la passe, la flou.
Oh! Et le but! Quel but!
Rapide.
Entre
couvert le filet.
Oh, wow!
Oh, wow,
Simon!
Qu'est-ce qui s'est passé de hot cette semaine dans la LHJMQ? Hashtag remplissons nos arénas. Écoutez, bon, moi, j'étais arbitre dans la vie, mais j'ai été aussi coach. Quand j'étais coach, je disais tout le temps à mes joueurs, arrête pas de jouer. Mettons que tu fais une erreur, là ça te sert à rien de taper sur la glace, tu te sors de la game. Mais il y a quelqu'un qui a compris ça, puis ça a donné un but. On regarde ça.
Back for it to Gauguin, back to Sharkey, fanned on the shot attempt. Now he scores! Dawson Sharkey! And at the 12:46 mark here in the second period, the Titans get on the board. It is Dawson Sharkey with the goal. It's now a 2-1 hockey game. You can see it there.
Fait que c'est ça, Dawson Sharkey du Titan d'Acadie Batters, écoute, il manque sa passe, écoute, il veut faire une passe au bord, il manque son coup. À la place de taper sa glace, ah, je suis pas content, ça n'a pas bien été, ben non, il reste concentré, il repogne la puck, il relance au but, puis ça rentre. C'est un beau but? Non! Sauf qu'il n'a pas arrêté de jouer, puis c'est ça que ça a donné. Ça donne un but. Fait que les petits boys qui me regardent si je vous ai coaché puis que je vous ai déjà dit, arrête pas de jouer, arrête de taper sa glace après un mauvais jeu. Ben, c'est ça que ça donne. C'est pour ça que lui, il a la GMQ aujourd'hui.
La différence, c'est que lui, il avait la chance de scorer, tandis que nous autres, il fallait back-checker l'autre bord. On n'avait plus de jambes déjà. C'est tout.
On va passer au You Can Do That moment de la semaine.
have none of your guff.
You can't do that.
You can't do that. Bon, cette semaine, écoute, j'ai pas le choix. C'est toujours drôle, un joueur, un goaler qui tombe dans son but. Sauf que là, Charlie Lindgren, lui, c'est plus que marqué dans son but. C'est vraiment... Il a juste mis dedans.
Lindgren. Oh, he put it in his own net! Charlie Lindgren! Has just gifted Tampa the lead.
Fait que c'est ça. Fait que bref, Charlie Lindgren, écoute, bon, ça arrive souvent de voir Marc-André Fleury, c'est arrivé, qui a fait quelques niaiseries. Mais là, Charlie Lindgren, qui la met littéralement lui-même dans son but. Donner l'avance au Lightning de Tampa Bay. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que Washington a quand même gagné la partie. Fait que c'est un moment cocasse qu'on met dans le You Can Do That moment de la semaine, mais qui est quand même bien reviré. Mais c'est ça. Donc, Charlie Lindgren qui mérite le 10 minutes de la semaine. On va aller voir les commentaires. Mathieu, parfait. Bon, ben Mathieu, il dit des affaires que j'ai pas le temps de lire. Mais bref, on va passer aux 3 étoiles. Les 3 étoiles, la semaine. Sébastien me les a envoyés, mais je pense que je ne les ai pas mis dans le truc ici. Donc, Sébastien, il est où? Il est là. Fait que la troisième étoile, les Third Stars, ils sont deux. Donc, Mathieu et Isaac. La deuxième étoile, les Second Stars, on va donner ça à Caroline et Jay, nos chroniqueurs de l'Océanique et des Wildcats de Moncton. Et la première étoile, The First Stars, Nicolas et Gabriel. Donc, pour les entrevues à Gabriel. Et puis, Nicolas, qui a même eu le privilège de donner les 3 étoiles de la partie des Huskies d'hier soir. Donc, contre les Sherbrooke, qui malheureusement, juste malheureusement pour Nicolas et pour les gens de Rouen, là, que les Huskies ont perdu 5
ils ont perdu, il est tellement biaisé, je suis pas mal sûr que les 3 étoiles, c'était aux Huskies pareil.
Non, en fait, la deuxième étoile, c'était Bill Zonon, mais la première et la troisième, c'est deux joueurs du Phoenix. C'est sûr que là, il fallait, écoute, il y a un contexte là, là-dedans, il faut que tu donnes les étoiles à 5 minutes de la fin, mais dans un match serré comme ça, si un but tardif qui fait 5-5, genre à 2-3 secondes, ben là, ta première étoile, elle vient de changer, tu sais. C'est ça. Fait que, bref, sur ce, les boys, je vous souhaite une bonne soirée.
Yes, merci. Bonne soirée, toi aussi. Qu'est-ce que ça me dit d'habitude quand c'est fini, ça? Ben... Ah oui! Invité semaine prochaine, tout le monde, de la région de l'Abitibi ou plutôt de même de d'Amos, parce que c'est un petit gars qui vient d'Amos. Jérémy Jaurès débarque à Sur la bande. Je ne sais pas si on a une photo, Claude. Jérémy Jaurès qui est dans les Forestiers, si je ne me trompe pas. Il doit avoir fait l'équipe. Hein?
Non, ben oui, ben il a fait l'équipe des Forestiers, c'est sûr. Il était là l'an passé aussi. Non, j'ai pas de photo. Sébastien, il a pris off, mais il y a des affaires qu'il aurait dû me donner et qu'il ne m'a pas donné. Bref, c'est ça, Jérémy Jaurès. Donc, les fans des Huskies, ceux de Rouyn-Noranda qui nous regardent, Jérémy Jaurès qui était au camp d'entraînement au début de l'année, donc qui a été repêché par les Huskies. Il va sûrement être dans votre formation l'an prochain. Jérémy Jaurès à Sur la bande dimanche prochain.
Parfait. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont regardés. Merci encore à tous les commanditaires qui nous aident à produire encore notre show à chaque semaine. Claude, tu peux rentrer ou écris-moi s'il y a quelque chose que j'oublie. Sinon, bonne soirée tout le monde.
Merci bien.